Le midi, de 15h30 à 18h30, restez avec nous, on va essayer de se donner le sourire. Déjà 17h02 et c'est l'heure de se casser la tête avec les énigmes du jour. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, attention, musique. Qu'est-ce qui est si fragile que dire son nom le casse? Qu'est-ce qui est si fragile que dire son nom le casse? La première personne à m'envoyer la bonne réponse en message privé sur Instagram ou en m'appelant au 02 43 24 37 37 gagnera deux places pour le concert de Manu Gallo le 26 février au Centre François Rabelais. À changer l'Instagram de l'émission, c'est @ c'est bien l'après-midi tout attaché sans apostrophe. Et pendant que vous faites chauffer vos petites méninges, je vous passe tout de suite l'excellent titre Sundress de A$AP Rocky. Et juste après, je recevrai Thibaut Caltagirone et Manon Bernardo pour la deuxième de C'est bien l'aventure. À tout de suite.
Tryna get that V with that crib. Back when you used to bees with that crib. Gotta give a little to get a little bit in return now. Tables turn out and you heard about me and my bitch. I'm just tryna chill, cause lately I've been thinking about you and rebuilding. Walk around like you love feelings. I can tell he not fulfilling. You in love with me still. They say only if looks could kill. For real, you walk around town with that guy. When you pass by, I just laugh like
salut les couzes, ne bougez pas, vous êtes sur Radio Alpa.
Enfin, je bouge si je veux.
Non mec, parce que c'est l'unique alternative.
Et il est 17h07 et c'est l'heure de la deuxième de C'est bien l'aventure, la rubrique où je reçois des baroudeurs du monde afin de discuter de leur voyage. Générique. Aujourd'hui, pour la deuxième de C'est bien l'aventure, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Manon Bernardo qui est venue nous parler de son long voyage au Vietnam ainsi qu'au Cambodge. Bonjour Manon, oh on m'appelle, alors attendez, je vais répondre. et raccrocher. Alors, la personne qui appelle, rappelez pendant les pauses musicales, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, bonjour Manon, comment ça va?
Ça va, super.
Content d'être là?
Bah écoute, de ouf.
Eh bah carrément. Super. Et j'accueille, nous sommes également... Ah, d'accord, d'accord. Alors, attendez. Et il ne pourra plus rappeler. Alors, nous sommes également en compagnie de Thibaut Caltagirone, que vous connaissez peut-être si vous avez écouté la première de C'est bien l'aventure. Il était venu nous parler de son voyage de 10 mois en Nouvelle-Zélande et il est aujourd'hui à mes côtés, car son expérience enrichira, sans aucun doute cette discussion autour du voyage de Manon. Comment ça va, Thibaut?
Bah, ça va très bien. Et toi, Léo?
Moi, ça va super. Je suis très content de vous avoir avec moi. Mmh. Alors, Manon, tu es donc partie 3 mois au Vietnam. Mm-hmm. Et 7 mois au Cambodge, c'est bien ça?
Tout à fait.
Tu es partie toute seule?
Je suis partie toute seule.
D'accord. Ouais. Alors, première question, d'où t'es venue déjà cette envie de partir aussi loin et aussi longtemps?
J'ai toujours voulu beaucoup voyager et j'avais déjà voyagé avant un peu à Madagascar en Afrique. Et après, je me suis dit, bon, faire une petite pause, faire mes études. Mais j'attendais qu'une chose, c'était de pouvoir de repartir. Et du coup, j'ai attendu le bon moment. Et en 2019, c'était le bon moment pour moi de partir en Asie.
Et alors, pourquoi ces destinations?
Alors, en fait, c'est un peu histoire basique. Quand j'étais à Madagascar, j'étais avec une autre bénévole qui, elle, est revenue du Vietnam. Et en fait, elle m'a montré des photos, elle m'a parlé un peu de son expérience. Et en fait, je me suis dit, mais ça a l'air trop beau, ça a l'air super bien. Et du coup, je me suis dit, OK... Let's go, quand j'aurai le temps, pourquoi pas y aller. Et du coup, ça m'est en 2-3 ans, ça m'est jamais. Cette idée, elle est toujours restée un peu au fond de ma tête. Et jusqu'au moment où je pouvais le faire, j'ai décidé d'y aller.
D'accord. Donc comme on l'a dit, t'es parti dans 3 mois au Vietnam et 7 mois au Cambodge. Comment ça se prépare un aussi long voyage?
Bah, j'avoue que je l'ai pas vraiment préparé. Je savais pas vraiment pour combien de temps j'allais partir. Je savais que j'allais rester 3 mois au Vietnam parce que j'avais demandé un visa de 3 mois. Après, j'aurais pu partir avant, mais après, je savais pas trop où j'allais après le Vietnam. J'avais une petite idée, mais j'étais pas sûre. Je m'étais fixé un peu 1 an. Je me suis dit, bon, je pars au moins maximum 1 an, mais après, qui sait, quoi. Je me suis dit, qui sait, ça peut être plus long, ça peut être plus court aussi, ça dépend comment je vais vivre la chose là-bas, donc...
En mode fast life.
Voilà, c'est ça, un peu... mais un peu au jour le jour. Du coup, j'avoue que j'ai pas trop préparé, à part, oui, effectivement, mon sac et le visa et le billet d'avion. Mais c'était pas... je me suis dit, je préfère me laisser porter par le pays, par les gens que je vais rencontrer là-bas, avec ce qui va se passer, enfin, voilà. J'ai pas trop préparé, j'avoue.
D'accord. D'accord, donc tu es partie toute seule pendant tout ce temps. Et j'imagine qu'il y avait une volonté derrière ça.
Ouais, tout à fait. Complètement, ouais.
Est-ce que tu peux nous en parler?
Bah, j'avais très envie de partir toute seule parce que je voulais vraiment avoir un voyage pour moi et un peu me retrouver seule dans ce voyage, faire mes propres choix sans avoir vraiment une influence quand on part avec des amis ou ce genre de choses, ou si on n'a pas envie de faire les mêmes choses. Et puis aussi de me pousser à aller rencontrer du monde. C'est pas pareil quand on part seul et que vraiment là, va falloir aller vers les autres parce que t'as besoin de lien social, t'as besoin de parler aux gens, que quand tu pars un peu avec des amis comme ça, quoi. Et puis effectivement, quand on part à plusieurs, ça va être plutôt plus organisé, on va dire.
Carrément.
Parce que l'autre a envie de faire ça, toi t'as envie de faire ça, donc c'est pas la même. Donc il y a beaucoup de gens, enfin il y a beaucoup de gens, certaines personnes qui m'ont dit « Ah, bah, j'aimerais bien venir avec toi », mais on a dit « Ouais, non, moi, c'était très important pour moi de partir seule. C'était aussi une façon de me retrouver et de prendre du temps pour moi, de voir un peu ce que j'avais vraiment envie de faire, de m'écouter un peu, ce genre de choses. »
Et à aucun moment, t'as eu peur? Parce que tu voulais partir toute seule, mais ça peut faire peur quand même.
Ça peut faire peur, ça c'est clair que ça peut faire peur. Après, moi, j'avoue que j'étais très excitée. Bah, il y a forcément de la peur un peu de comment ça va se passer, mais je me suis dit, j'ai confiance un peu en moi, en mon instinct, et du coup je me suis dit vas-y j'y vais, quoi. Puis j'adore faire des choses seule, c'est pas des trucs qui me font peur, mais il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé ça, quoi, en me disant mais tu vas partir seule, mais t'as pas peur, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, comment ça va se passer, donc
face à toi-même.
Et en fait moi j'avais pas cette crainte, j'étais vraiment plus excitée de voir comment j'allais réagir justement, comment j'allais pouvoir m'adapter ah voilà, un moment où je suis toute seule face à moi-même, quoi. Et face à des choses que je connais pas, à l'inconnu, en fait. Parce que t'arrives là-bas.
C'est une sorte de quête initiatique.
C'est ça, ouais. Et puis moi, c'était vraiment découvrir des cultures, quoi. C'était pas vraiment aller voir les places les plus touristiques, voir les choses les plus belles. C'était vraiment aller à la rencontre des autres, des locaux, de la culture, d'en apprendre un max, quoi. Et du coup, c'est pour ça que je suis restée 3 mois, parce que c'est pas en 2 semaines que tu comprends ce qui se passe là, bah ouais. Donc des fois t'as envie bien de t'imprégner un peu de ce qui se passe là-bas, quoi.
D'accord. Et donc on va passer à la question qui fâche, mais on l'a fait maintenant et ensuite tu n'en auras plus. Donc t'es parti en 2019, l'année qui marque le début du Covid-19, du coup.
Tout à fait. Ouais.
Donc j'imagine que ça a impacté ton voyage.
Bah ouais, carrément. Bah au début pas vraiment, vu que je suis parti en décembre 2019, c'était vraiment juste avant, quoi.
Ouais.
Et après, on a commencé à en entendre parler, surtout nous en Asie, parce que c'était en Chine. Enfin, 2019, ouais. C'était plus la Chine. Mmh. Donc, nous, on entendait parler. La France, je voyais qu'elle était super loin de tout ça. Mmh. Et puis, en fait, effectivement, après, il y a eu un impact où j'ai passé la frontière Vietnam-Cambodge tout juste avant que toutes les frontières se ferment, quoi. Donc, je me suis un peu dépêchée en disant, OK, faut que je change de pays, faut que j'aille au Cambodge. Mais à l'époque, on pensait que c'était un truc qui allait durer 2-3 mois, quoi.
Et t'avais déjà prévu en amont d'aller au Cambodge après
Vietnam? Ouais, un peu, ouais. Ouais, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire un peu Vietnam, Cambodge, repartir au Laos, remonter un peu en Asie du... Myanmar après. Mais du coup, je me suis retrouvée...
À te dépêcher un peu, quoi.
À me dépêcher. Et puis du coup, au final, moi qui voulais rester 1 mois au Cambodge, je suis restée 7 mois, du coup.
T'as pas pu aller au Laos, du coup.
J'ai pas pu aller au Laos, tout à fait, vu que quand je suis passée au Cambodge, là, tout est fermé. Thaïlande, Laos, toutes les frontières étaient fermées. Mmh. Et du coup, je me suis dit, bon, on va attendre, on va vivre un peu notre vie et puis on va voir ce qui se passe. Et au final, je suis restée, quoi.
D'accord. Et du coup, qu'est-ce que t'as fait durant ton voyage au Vietnam et au Cambodge? Est-ce que t'as travaillé, exploré, visité? Raconte-nous un peu.
Eh ben, au Vietnam, quand je suis arrivée, déjà, je me suis pris un petit temps, je suis à l'étranger, à l'autre bout du monde.
Adaptation.
Tout seul, adaptation. Donc, je me suis pris une petite semaine dans la même ville, histoire de voir un peu l'ambiance du pays. Et puis après, très peu de temps après, en fait, j'ai acheté une moto.
Oh yes.
Et pendant 3 mois, j'ai essayé le pays en moto.
C'est génial, ça.
Ouais. Ah. Donc ça, c'était super cool, enrichissant, parce que c'est vraiment un voyage différent. Mm. Tu t'arrêtes où tu veux, dans les petits villages.
T'es libre.
T'es vraiment libre de tes mouvements, en fait. Mm. Tu vois quelque chose de beau, tu t'arrêtes, tu peux prendre une petite photo, prendre un petit temps, manger devant, rencontrer les gens dans les villages. Ce que tu peux pas faire quand t'es en bus, quoi. Quand t'es en bus et t'as un point 1, t'es au point A, tu vas aller au point B, quoi.
Puis t'as les horaires qu'il faut suivre.
T'as les horaires qu'il faut suivre, et puis du coup, tu t'arrêtes pas, c'est vraiment, tu vas de ville en ville, alors que là, tu vois ta route, en fait. Vraiment, et t'y prêtes attention.
Je suppose que les bus, c'est pas comme ici.
Ah, non, c'est pas comme ici. Après, il y a des traits, au Vietnam, il y a quand même, si tu mets un peu le prix, ce qui est vraiment pas cher, là-bas, mais, il y a moyen d'avoir des bons bus. Il y a des bus où j'étais bien.
Confortable.
Ouais. Il y a des bus de nuit, ça peut être sympa. Et puis après, il y a aussi d'autres bus, mais ça, c'était plus au Cambodge, c'est pas le même confort que la C-Tram du Mans, ouais, c'est sûr. Honnêtement. Et puis surtout, il y en a, ils partent que quand le bus est plein.
Plein, ouais.
Donc, mais c'est assez organisé quand même là-bas, les bus. En vrai, tu peux te retrouver dans des trucs assez confort, honnêtement.
Et donc du coup, t'as sillonné le Vietnam en moto. Mais comment t'as fait pour subvenir à tes besoins? T'as pas travaillé?
J'ai pas du tout travaillé. C'était aussi pareil comme partir seul. C'était aussi un point que je voulais mettre, de pas vouloir travailler. Après, je me connais, je suis très sensible à tout ce qui est associatif. Donc je me suis dit, si à un moment donné il y a un projet, une action que j'aime bien, forcément je vais m'investir. Mais je voulais pas genre travailler pour de l'argent et puis du coup rester 1 mois quelque part, travailler, repartir après. Je voulais vraiment vivre mon expérience à fond. J'avais les moyens. J'avais économisé pas mal avant, donc je voulais vraiment me laisser
kiffer,
explorer.
Il faut économiser beaucoup, ou là-bas avec beaucoup moins tu peux vivre.
Après, ça dépend comment tu veux vivre ton voyage. Moi, j'étais vraiment le confort, il y avait pas, quoi. C'est genre je prenais vraiment le moins de confort, donc forcément je dépensais beaucoup moins.
Et tu dormais où?
Je dormais dans ce qu'on appelle guest house, en fait, une sorte d'auberge, en fait, ouais, en France, où t'es dans des dortoirs avec, tu peux être avec 6 personnes, 10 personnes, enfin, ça va dépendre. Et c'est genre vraiment pas cher, c'est $2 la nuit. Donc en fait, ah, c'est 1,50, même pas.
Donc, en fait, tu peux, si t'économises assez avant de partir, tu peux te permettre de pas travailler là-bas, quoi.
Tout à fait. Moi, j'ai pas du tout travaillé. J'ai voyagé presque un an, quoi. Il y a juste un mois où j'ai fait un peu de bénévole, où j'étais nourrie et logée. Mais en soi, si vraiment le confort, c'est pas un truc, c'est un truc dont tu peux te priver, franchement, tu peux vraiment.
De toute façon, je pense que si tu pars en voyage, c'est aussi pour perdre un peu ce confort que t'as chez toi.
Ouais, c'est sûr.
Parce que c'est la différence entre le voyage et les vacances.
Ouais.
C'est vrai.
Exactement, ouais.
C'est vrai. Et en même temps, si à un moment donné, tu veux un peu de confort, ça reste quand même abordable de fou. Moi, je sais que des fois, demander les dortoirs, avec les gens qui ronflent, les gens qui rentrent bourrés à 3h du mat. Enfin, voilà, c'est pas forcément évident. Donc, des fois, t'aimes bien avoir un peu d'intimité. Et des fois, tu peux trouver une chambre, tu vois, avec un lit de place, et pour pas cher, quoi, tu vois, pour $3, un truc comme ça, et c'est cool. Comme ça, t'as un peu d'intimité, mais en vrai, ouais, t'as pas besoin non plus de beaucoup d'argent, quoi.
Ok, et du coup, en parlant de kiff, est-ce que tu peux nous partager, alors t'auras peut-être le temps de la pause musicale pour y réfléchir, mais si tu l'as maintenant, balance, est-ce que t'as un événement mémorable, joyeux ou triste, mais qui t'a profondément marqué durant ces voyages?
C'est pas facile, hein.
C'est pas facile.
J'avais séché la dernière
fois. Ouais, après, je peux laisser.
Moi, j'en ai un. Honnêtement, j'en ai un que j'aime bien raconter et que vraiment, ça m'a marqué parce que c'était un peu aussi le dépassement de soi, quoi. Je me suis dit, c'était au tout début de mon voyage. En fait, je me promène et souvent, je vais pas dans les sentiers un peu touristiques. C'est vraiment, je me balade dans les rues où il y a pas grand monde. Et en fait, à un moment donné, il y avait plein de rizières et je me balade comme ça. Et en fait, je vois un mec en scooter avec une petite arme à feu sous le coude et qui me fait un petit coucou. Du coup, je fais un petit coucou. Et là, en mode, ok, ça a l'air ok, très bien.
Mais
voilà. Et en fait, je le vois faire demi-tour. Puis moi, je continue sur la même rue. Et en fait, là, je vois genre 4 Vietnamiens assis par terre avec des petites tasses de dinette en train de faire griller du poisson sous un petit feu. Et en fait, je passe devant eux et ils me disent, vas-y, viens, machin et tout. Et franchement, à tout moment, tu dis, bah non, en fait, je fais pas. Le mec, j'ai vu il y a 2 secondes en scooter avec une arme à feu, ils sont là, ils sont en train de griller du poisson, je sais pas comment, tu
dans
vois. T'es là en mode, bah non, j'y vais pas. Et bah, franchement, j'ai dit, mais grave. En fait, j'ai fait, qu'est-ce que j'ai d'autre à faire, tu vois. Et puis, en vrai, du coup, j'ai commencé à m'installer, et c'est là que tu vois aussi toute la bienveillance et la gentillesse. Ils sont là, ils t'offrent du rhum, ils t'offrent du poisson, ils te disent, mais vas-y, mange. T'es limite, eux, ils ont plus rien après. Et ce qui était fou, c'est qu'ils parlaient pas beaucoup anglais.
Ouais.
Et on arrivait quand même à communiquer et vraiment à rigoler. Genre vraiment, qu'est-ce qu'on a rigolé? Et eux, ils étaient là avec leur téléphone en live Facebook parce qu'ils adorent les live Facebook, tu vois. Et c'était là en mode genre, ouais, on est avec une étrangère, on est en train de boire du rhum et manger du poisson grillé. Et c'était vraiment, moi, j'avais adoré ce moment. Et tellement qu'après, en fait, on s'est fait un karaoké. On s'est dit, ouais, moi, je rentre à mon guest house, je vais prendre une petite douche, machin. Ils font, ah, vas-y, karaoké après. Je fais, mais carrément. Du coup, on s'est rejoint dans un vrai bar, là. On était pas entre deux rizières, mais vraiment dans un vrai bar. On a fait des karaokés ensemble. On a rebu des trucs.
T'as chanté dans leur langue, du coup?
J'ai pas chanté dans leur langue, non. Et même à un moment donné, j'ai mis, pour la petite anecdote, j'avais mis du Aya Nakamura. J'avais mis Pookie. C'était, on l'écoutait pas mal avant.
Je suis sûr, ils ont trop kiffé.
C'est en mode, qu'est-ce que c'est qu'elle nous fait? mais c'était un super moment. Enfin, moi, j'avais, comme quoi, on aurait tous dit, pas le premier réflexe, ça aurait été de dire, non, j'ai d'autres trucs à faire, je continue ma route, alors que ça se trouve, j'aurais pu louper ce moment qui était pour moi incroyable, quoi, parce que c'était vraiment aussi aller à leur rencontre, et ils m'ont expliqué plein de choses, leur manière de vivre culturellement et tout, et que, en fait, même s'il y a une barrière de la langue, ça peut se faire. Honnêtement, ça peut se faire, et tu peux toujours rigoler et passer un super moment, quoi.
Ok, et du coup il est déjà 17h22. Alors je t'ai demandé donc ça va être l'heure de la pause musicale. Je t'ai demandé de venir avec un morceau qui te rappelait ton voyage.
Ouais.
Qu'est-ce que c'est?
Attention.
Du coup je t'en avais envoyé.
Ouais, tu m'en avais envoyé deux.
Ouais, je t'en avais envoyé un qui était Dance Monkey. Ça me rappelle un peu le Vietnam au nord où on était en moto, on faisait des karaokés sur ça. Et une autre en fait que j'écoutais beaucoup au Cambodge, en fait qui passait tout le temps. À chaque fois, t'allais au resto, au bar, dans les magasins, il y avait toujours cette musique. Et puis même nous, en fin de soirée, on mettait celle-ci qui est vraiment douce. qui est en khmer, la langue qui est très très sympathique.
Et bah du coup, si t'es d'accord, on va s'écouter celle-là.
Carrément.
Mais vu que l'écriture est en khmer,
personne ne veut prononcer le nom.
Bah je vais essayer de le prononcer. Désolé à tous les Cambodgiens qui m'écoutent. grâce à Google Traduction, alors elle s'appelle Sangsei Retesau Sana. Voilà. Et puis bah c'est tout de suite sur Radio Alpa. À tout à l'heure.
C'était pas mal.
Ouais. Bien prononcé.
Mưa bom đã Nabai comme un coquin pis match mais tu m'as rappelé de gamme des meilleurs mieux. Somme toi de gamme pec des meilleurs mieux.
Vous écoutez Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
L'alternative.
Alors, nous sommes de retour dans C'est bien l'aventure. Nous étions avec Manon, venue nous parler de son voyage au Cambodge et au Vietnam. Et nous étions aussi accompagnés de Thibaut, également premier participant de C'est bien l'aventure, venu m'épauler lors de cette interview. Merci encore d'être avec moi.
C'est un plaisir.
Eh ben, carrément. Plaisir partagé. Alors, Manon, j'imagine du coup qu'en 3 et 7 mois de voyage au Vietnam et au Cambodge, j'imagine qu'on doit faire des rencontres.
Mm-hmm. Beaucoup.
Beaucoup.
Ouais, beaucoup, énormément même.
Ouais, est-ce que tu peux nous en parler peut-être? Est-ce qu'il y en a, il y a des rencontres qui t'ont marqué? Est-ce que tu gardes contact maintenant, encore maintenant, avec des gens que t'as rencontrés là-bas?
Ouais, j'ai gardé quelques contacts avec certains Américains que j'ai rencontrés, même des Français aussi. Il y a aussi des Français avec.
Il y en a beaucoup de Français.
Non, il y a pas beaucoup de Français, mais parce que moi j'ai pas trop envie de.
D'en rencontrer.
Non, pas d'en rencontrer, parce que c'est toujours un plaisir, mais en soi c'est pas ceux que j'allais chercher quoi. Mais je me souviens, en fait pendant au Vietnam à un moment donné, pendant un mois j'étais restée un peu au même endroit et j'avais une copine américaine qui m'a beaucoup aidée aussi avec la langue anglaise. Parce que j'étais vraiment très très nulle en tout temps, en me disant c'est bon, on va me comprendre et je vais comprendre. Pas du tout. Loin de là, je ne comprenais rien, les gens ne me comprenaient pas. Et elle a été hyper patiente et on a passé des journées ensemble qui étaient incroyables, on a créé beaucoup de souvenirs.
Est-ce que maintenant t'es bilingue?
Maintenant, bilingue, je dirais pas ça, mais honnêtement,
tu te sais te débrouiller quoi.
Ah bah honnêtement, maintenant, oui, j'ai des bonnes
c'est
bases.
C'est la meilleure école en vrai.
Ah c'est clairement la meilleure école.
De toute façon, tu peux pas faire autrement.
Bah ouais, tu peux pas faire autrement, t'as pas le choix.
T'as pas le choix que d'apprendre à parler quoi.
De toute façon, surtout quand t'es tout seul en fait, parce que moi, je sais qu'il y avait beaucoup de Français qui voyageaient ensemble, et en fait, eux, ils allaient pas vers les autres parce qu'en fait, ils étaient pas à l'aise avec l'anglais, et du coup, ils restaient entre eux. Mais du coup, quand tu restes entre français, c'est pas là que t'apprends effectivement l'anglais. Quand t'es tout seul, t'as pas le choix.
Ouais, c'est vrai. Mmh. Et est-ce que du coup, là on parlait de rencontres, mais est-ce qu'à contrario, est-ce qu'un long voyage comme ça, loin de tes proches, ça joue sur ton cercle social?
Moi,
question compliquée.
Ouais, question compliquée.
Question compliquée. J'avoue que moi, je suis une personne qui donne en plus pas beaucoup de nouvelles, donc c'était souvent ma famille qui me demandait est-ce que t'es toujours en vie, est-ce que tout se passe bien,
donc où tu es.
Ouais, souvent mon père m'envoyait, il me demandait toujours au moins où j'étais à peu près dans le pays, et du coup il regardait sur map, ok elle est là, mais c'était je suis pas sûre que ça a changé beaucoup de choses. Moi ça m'a fait aussi du bien un peu aussi de m'écarter de ma vie française, un peu des proches, de mon cercle amical, familial. Parce que ça m'a pas trop impacté. J'avoue que
t'as pas eu de moment où il fallait que tu les appelles parce que t'avais eu des coups de moins bien ou quoi que ce soit.
Moi, non, j'ai jamais eu de coups de moins bien, honnêtement.
Des brouillardes.
Ouais.
Des brouillards à jamais.
Non, franchement non, ça va. Puis moi je me suis jamais sentie seule quoi. Il y avait toujours du monde en fait. C'est pour ça que c'est difficile pour les rencontres parce que j'ai vu tellement de gens différents. Ouais. Et quand tu bouges beaucoup, en plus c'est vraiment tu rencontres quelqu'un. Tu vas rigoler, mais le lendemain, tu le reverras jamais, cette personne. Et du coup, c'est aussi, ça crée aussi une autre relation quand tu sais que tu vas jamais revoir la personne, que en fait, tu kiffes beaucoup plus l'instant. T'es beaucoup sur le moment parce qu'en fait, cette personne-là.
Tu sais que tu la reverras jamais.
Tu la reverras jamais et tu partages vraiment un instant, un moment avec cette personne.
Je sais qu'au début, moi, quand je suis parti, je sais pas si ça t'a fait ça, mais au début, genre, quand tu quittes la personne, c'est dur. Alors qu'après, tu t'habitues à rencontrer des gens et le lendemain, ne plus jamais les revoir.
Ouais, carrément. Moi, j'aimais bien ce truc-là de rencontrer, on passe des moments ensemble qu'on va se souvenir et en même temps on va pas se revoir et c'est pas grave parce qu'on sait que on a vécu des trucs super cool ensemble
et qu'on expérience pour chacun.
C'est ça et qu'on gardera ça en tête quoi. Donc
Et j'imagine aussi que dès le moment où t'as atterri au Vietnam et au Cambodge, t'as dû faire face à un choc culturel.
Ouais, surtout au Vietnam. Ouais. Après entre Vietnam et Cambodge, ça va encore vu que c'est encore l'Asie du Sud-Est.
Ça ressemble les deux pays un peu.
Ça se ressemble, mais en même temps il y a de la différence. Ça dépend dans quel coin tu vas, mais quand t'arrives au Vietnam, tu fais face surtout à la capitale du Vietnam.
Ouais.
Où il y a beaucoup de nuisances.
Sonore,
ouais. Ah ouais. Et beaucoup de pollution, surtout à certaines heures, parce que c'est beaucoup de scooters. Donc vraiment, il y en a plein. Évidemment, au début, je me suis dit, mais en fait, c'est plus dangereux de se balader à pied qu'en scooter, quoi. Vraiment,
C'est sale.
C'est pas sale. Mais c'est juste que à 17 heures, t'as tous les scooters et tu le sens. Moi, au bout de deux jours, Je toussais. Je sais que je pouvais pas sortir au début de plus de 1h30 parce que la nuisance sonore, ça me donnait mal au crâne. Ouais. Donc c'est le temps d'adaptation, quoi. Mmh. C'est un peu. Après, ça dépend de chacun. Il y en a, ça va pas du tout les déranger, mais c'est vrai que c'est une petite ville où il y a beaucoup de gens.
Mais du coup, c'est ça que dans les villes. Dès que tu sors des villes, là,
quand tu vas dans le nord du Vietnam, c'est complètement.
C'est des paysages
c'est
incroyables.
C'est beaucoup plus calme. T'as juste les chiens qui font, surtout les chiens, les coqs, quoi. Donc c'est pas du tout la même nuisance sonore, quoi. Au final, donc c'est pas la même chose, honnêtement.
Ok. Et du coup, est-ce que avec du recul, est-ce que tu saurais dire ce que ce voyage t'a appris ou apporté? Parce que là, ça fait. T'es revenu il y a combien de temps exactement?
Ouais, ça fait un moment maintenant que je suis revenu là. Ça fait
plus de 2 ans.
Non, je pense pas. Ça fait un survenu en octobre 2020. Donc, ça fait un an et demi que je suis revenue. Et je suis beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme. J'aborde les choses pas du tout de la même façon. Ouais. Ça m'a vraiment... Surtout là-bas où il y a la religion, c'est très... Ils sont 90%, même plus de 90% en Cambodge bouddhiste. Mmh. Et donc, il y a une vraie culture là-bas qui est très importante au niveau de la religion, qui est sur, OK, il m'arrive ça dans ma vie, il faut que je le prenne. Mmh. J'ai pas le choix. Mmh. Ça m'arrive, OK, c'est pas cool, mais c'est pas en la fin en soi, et il faut pouvoir l'accueillir et en faire quelque chose.
À relativiser, quoi.
Ouais, relativiser, et puis ouais, d'accueillir ça et construire un truc par rapport à ça, quoi, à ce ressenti là. Donc je suis beaucoup plus sereine dans ma vie, beaucoup plus calme, et j'aborderai vraiment pas les choses sur mon doigt. Ça va, il y a pire, tranquille. Ouais.
Est-ce que tu l'étais pas avant de partir comme ça?
Avant c'était pas la même, quoi. J'avais pas du tout la même façon de penser. Maintenant j'ai l'impression aussi de comprendre beaucoup. En tout cas, de pas forcément comprendre les autres, mais en tout cas à me dire que chacun est différent, chacun pense de la même manière, et que moi, ce que je pense, c'est pas la réalité de tous, qu'en fait c'est ma réalité, et que tout le monde ne peut pas penser comme moi, et que c'est pas grave, en fait. C'est pas grave.
Penses que c'est ces pays-là qui t'ont apporté ça, ou c'est juste le voyage en soi?
C'est le voyage, parce qu'après, moi, j'ai fait beaucoup pendant mon voyage de travail aussi sur moi-même, d'introspection. J'ai fait beaucoup de méditation. Ça, c'était vraiment... Après, c'est l'Asie, hein. C'est vraiment porté. Tu peux vraiment faire de la méditation. Des fois, je faisais toute une après-midi de médite pendant 3-4 heures, et t'étais vraiment en introspection avec toi-même.
Non-stop?
Non-stop, ouais.
Wow.
On stoppe. Ouais, mais après, c'est de l'entraînement.
Tu peux faire carrément. Ça.
Et tu continues à le faire en France ou pas?
Ouais, je continue à le faire. En fait, je me force à le faire parce que tu peux très vite ne pas le faire. Mais je sais que c'est très important pour moi un peu de prendre un peu le recul sur tous mes sentiments, tout ce que je ressens à la longueur de la journée. C'est bien à un moment donné de se dire, OK, aujourd'hui, j'ai vécu ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que j'en fais?
T'en tires des conclusions?
Ou non. Qu'importe, mais au moins, j'ai conscience de ce qui se passe pour moi, quoi. Je suis pas à vivre ma vie à 24 heures à l'heure sans me poser trop de questions, quoi.
Ouais, la méditation, moi j'ai déjà médité 15 minutes.
c'est déjà bien pour
quelqu'un qui débute. Et c'était mon sophrologue qui m'avait conseillé de faire ça, parce que c'était vraiment un truc qui te permettait de t'ancrer vraiment dans le vivant, de sentir vivant et tout. Donc c'est vraiment génial. J'aimerais bien, j'ai un pote Maxime Rado, je sais pas si tu vois qui c'est, qui est déjà passé à Radio Alpa, qui lui le fait tous les jours et tout, et c'est vraiment un truc que j'aimerais faire, moi, la méditation.
Ouais, c'est un truc un peu complètement d'ancrage, et puis je sais plus ce que je voulais dire, mais
Et c'est quelqu'un qui t'a montré à le faire là-bas, ou tu l'as fait par toi-même
la première
fois?
Je l'ai fait un peu par moi-même, mais en fait même sans le savoir, en fait, des fois je le faisais, ou au mode, à un moment donné, je prends le temps de voir ce qui me traverse un peu l'esprit. Et en fait, des fois, tu le fais sans te rendre compte, même de la méditation. Hein. T'es là, t'es posé sur ton lit, tu fais rien. Ton esprit est vagabonde. Ouais. À un moment donné, tu te recentres un peu. Enfin, des fois, tu le fais un peu sans t'en rendre compte.
Ouais.
Du coup, au début, j'utilisais un peu une appli pour me guider. Puis après, à la fin, je le faisais à ma sauce, quoi. Comment je le sentais, en fait.
Ok.
Et du coup, maintenant, en connaissant tout ce que t'as apporté ce voyage, est-ce que t'en as prévu d'autres?
De ouf.
Lesquels?
J'aimerais bien, parce que j'ai quand même attendu 7 mois au Cambodge pour pouvoir aller au Laos.
T'aimerais bien y aller, du coup.
Et à un moment donné, du coup, j'ai dit, bon, je vais rentrer en France, parce que j'ai l'impression que ce Covid, là, ça dure un peu longtemps. Du coup, j'aimerais bien quand même aller au Laos, quoi. Franchement, j'ai attendu, bord de la frontière, dès qu'ils rouvrent, j'y vais, quoi.
Aussi longtemps?
Aussi longtemps, non. Je préfère. Enfin, du coup, j'ai envie de faire plein de petits pays. Enfin, ouais. Vraiment un peu comme le Vietnam. Puis ça dépend comment moi je ressens le pays. Tu vois, si la culture, elle me plaît ou il se passe un truc, j'ai envie de rester. Ou alors je pars plus tôt. Enfin, j'ai pas de limite. Mais dans la longueur du voyage, ouais. Du coup, là, quand je vais pouvoir repartir, je vais partir. Pour un moment, je pense.
Et tu reviendras dans C'est bien l'aventure
pour en reparler. Discuter, ça, voilà. Carrément, tout à fait. Ouais.
Et est-ce que du coup, pour des gens, par exemple, si là, t'as donné envie à des auditeurs de partir au Cambodge et au Vietnam, est-ce que t'as des endroits qui t'ont marqué, des endroits à vraiment pas louper, des trucs magnifiques? Enfin, je suppose qu'il y en a à l'appel, mais...
Il y a beaucoup et à chaque fois, en fait, honnêtement, je m'en souviens... Je me souviens des moments, dans ces endroits-là que je partage avec des gens ou que je partage même, enfin, juste avec moi-même, mais,
oh là là. C'est quoi comme style de paysage? Moi, c'est plus montagnard,
c'est de la montagne, c'est de la forêt, c'est du parc national à tout va. Moi, j'ai adoré le nord du Vietnam parce qu'en fait, j'étais partie, c'était un peu comme en trekking, mais en scooter pendant 3-4 jours. Et en fait, pendant 3-4 jours, on faisait, ça a un nom, mais je me souviens plus, mais c'est des routes dans le nord du Vietnam où il y a quasiment peu de villages et c'est juste des slaloms. C'est des virages, t'as des montagnes, t'as de la nature, c'est super beau, c'est super agréable, il fait beau, c'est un truc, tu t'arrêtes à l'auberge, les gens sont super sympas.
Et toujours toute seule?
Ça, je l'avais fait avec beaucoup de gens.
D'accord.
Ah ouais, là, j'étais partie avec beaucoup de gens et ça faisait peut-être une semaine et demie que j'étais arrivée au Vietnam et je me suis plongée direct dedans en mode vas-y, let's go, j'y vais et on était très nombreux. Et je m'étais dit que si je revenais au Vietnam, je le referais seul. Du coup, mais c'était trop bien de le faire avec plein de monde parce que le soir c'était karaoké, une tonne de bouffe. Voilà, oh la nourriture.
Tiens, en parlant de bouffe, est-ce qu'il y a un plat typique qui t'a marqué, des conseils, des trucs?
Il y a tellement de choses parce que eux c'est pas
genre. Comment la bouffe là-bas?
Ah bah en fait, c'est pas comme nous, tu sais, on a un plat, on va faire vas-y petit pois steak haché, tu vois, genre eux c'est genre t'as ton riz et en fait t'as plein de trucs.
C'est copieux.
C'est hyper copieux hein, quand tu vas chez eux, ils t'accueillent, ils te donnent tout quoi. Et vraiment, ton riz il est fini, ils t'en remettent. Et en fait, c'est juste que t'as plein d'accompagnements. Donc en fait, t'as plein de choses. Ça peut.
Comme un buffet quoi un peu.
C'est un peu un buffet tu vois. Et du coup, t'as avec ton riz, avec tes baguettes, tu prends ce que tu manges. Moi, ce que je mangeais beaucoup au Cambodge, c'était des lok lak.
C'est quoi ça?
Le lok lak, c'est du bœuf et en fait t'as du riz, un peu de légumes, genre des concombres, des trucs comme ça, de la tomate, de l'oignon, et en fait c'était surtout la sauce du lok lak, elle est incroyable.
C'est une sauce secrète
Je sais même pas ce qu'il y a dedans. J'ai pas la recette, mais franchement, mais je suis sûre en plus tu peux en trouver au moins. Il y a un petit resto là cambodgien, vietnamien, thaïlandais, je suis sûre ils font du lok lak parce que c'est vraiment typique de là-bas quoi, et la sauce et le bœuf quand il est tendre, hein. Voilà, c'est incroyable.
La nourriture entre les deux pays, c'est à peu près la même ou...
C'est un peu différent, mais honnêtement, c'est du riz, quoi, avec des accompagnements, quoi. Après, on mange beaucoup aussi de bouillon. C'est beaucoup de bouillon. Après, moi, au Cambodge, je faisais ma propre bouffe, ma propre nourriture, donc je mangeais pas trop... Enfin, la cambodgienne, j'allais au marché tous les matins et tous les soirs. Le soir, j'allais chercher mon petit poulet, tu vois, et matin, mes petits légumes. Et en fait, c'est moi qui me faisais... ma propre nourriture, quoi.
Et je sais pas si la comparaison est intéressante, mais entre le Cambodge et le Vietnam, t'as préféré quoi? Avec du recul. Après, c'est différent parce que t'es pas resté aussi longtemps.
Ouais, et puis c'est pas le même type de voyage parce que du coup, le Vietnam, c'était vraiment du voyage. Genre vraiment pendant, j'ai sillonné le pays avec mes petites motos pendant 3 mois, j'ai rencontré plein de gens. Comment c'était pas pareil parce que je me suis vraiment posée. En 7 mois, t'as fait le pays,
T'avais pas de moyen de locomotion?
Et j'avais ouais, t'en as toujours, tu vois, je louais des scooters ou j'ai des potes qui me filaient la leur, tu vois, mais c'est surtout que je me suis posée par exemple à une auberge pendant 3 mois quoi. Et donc là c'est pas le voyage genre où tu slalom les villes, là c'est vraiment limite t'es cambodgien quoi. Surtout moi j'étais pas dans une grande ville, j'étais dans un petit village, il y avait vraiment pas d'étrangers, j'étais la seule blanche quand je suis arrivée. Au début, pendant 15 jours, ils me regardaient en mode « qu'est-ce que tu fais là ?» quoi. Et au bout, à la fin, ils me voyaient tous les jours au marché. Bon, à la fin, on rigolait, ils m'apprenaient des mots khmer.
Et ça ressemblait à quoi une journée type là-bas?
Une journée type. Alors, je me réveillais, j'allais au petit marché chercher mes œufs, mes petits légumes. Je revenais, et je mangeais. Après, il y a eu deux. Moi, j'ai connu les deux saisons, Cambodge. La saison très avec de la chaleur, quoi. Ouais. Il fait 40 degrés, honnêtement.
Ouais,
et puis aussi la saison des pluies. Donc la chaleur, en fait, c'est genre tu te lèves très tôt le matin. Je me levais à 6h. J'allais au marché. Je mangeais un bout. Je me promenais un peu. Après, après c'était la sieste, quoi. Ouais. Parce que honnêtement, il faisait trop chaud. En fait, même sans rien faire, c'était pas possible, quoi. Ouais. Et tu ressors vers 16-17h. Je faisais mon petit tour du lac. J'allais voir mes deux trois potes cambodgiens. On buvait 2-3 bières, machin, discutait. Et puis voilà. Après, j'allais beaucoup aussi dans les waterfalls, les cascades. Il y avait beaucoup de cascades là où j'étais et tout. Donc c'était super cool. Je faisais des petites après une cascade. Je faisais beaucoup de randonnées. Des fois, je partais pendant 3 jours à côté du village dans les forêts où genre je mettais mon, comment ça s'appelle,
ton
hamac.
Mon hamac.
J'allais dire hamam.
Ouais, je prenais mon j'étais en bivouac. J'étais avec mon hamac et genre j'étais là et j'avais pris 2-3 trucs à manger, plein de fruits et tout ça, et je me posais pendant 3 jours en espérant voir un petit singe passer par là.
Et t'en as vu?
J'en ai vu, ouais. J'ai eu une belle expérience avec un singe sauvage.
Bah, raconte-nous.
C'était assez incroyable parce que, bon, des fois, j'étais un peu inconsciente, hein, j'avoue, dans mes randos, mais parce que j'ai jamais voulu prendre les sentiers, donc je me baladais en forêt où personne n'en allait. J'étais pieds nus, hein, avec des claquettes, comme ça. Des fois, je mettais mes pieds, je savais pas où je les mettais. Peu dangereux, ouais. Il y a des petits serpents, pas à faire, ça je l'évite. Et en fait, j'étais seule, c'était très calme, et en fait, à un moment donné, je vois une chenille, mais comme j'en ai jamais vu. Là-bas, tout est 3-4 fois plus grand, et du coup, la chenille, elle était énorme, tu sais, un peu urticaire, avec des grands poils.
Chenille constitutionnaire,
en France. Ce que tu peux pas trouver en France, elle était vraiment énorme. Et j'étais en mode, waouh, mais t'es énorme, tu sais, je parlais tout seul, j'étais en mode, waouh. Tu sais, je voyais les feuilles où elle avait mangé, j'étais en mode, waouh, mais t'as mangé tout ça, j'étais en pleine, waouh, incroyable, la nature, tu vois. Et en fait, là, j'entends un peu un bruit sourd, tu vois, loin. Et tu sais, je me dis, bon, qu'est-ce que c'est ça, tu vois. Et j'étais vraiment seule, j'avais vraiment silence, quoi. Et là, en fait, j'entends des bruits, de branches. Et là, je vois, à 15 mètres de moi, je le vois sur la branche. Et je vois, il m'a pas vu. Ma réaction, c'est genre, je suis bouche bée, je mets ma main devant ma bouche.
C'était quoi comme singe?
Je sais pas du tout. J'ai même pas eu le temps de voir parce que ça a duré vraiment, je te jure, 2 secondes, hein. Parce qu'en fait, il s'est retourné, il m'a vu, on s'est regardé. Au bout d'une demi-seconde, il était déjà plus là, quoi. Vraiment, il était parti, mais parce que c'est vraiment ceux qui sont sauvages et qui ont peur d'être chassés. Ouais, donc, dès qu'ils voient un humain, pas du tout dans les îles à singes de touristes où ils viennent te piquer ta bouffe. Non, lui, c'est pour la survie. Mais c'était trop beau parce que t'es là tout seul.
Tu t'attendais pas à ça
et c'est vraiment une rencontre qui est pas préméditée. Enfin, vraiment, c'est la beauté de la nature où genre tu te promènes et tu vois ça et ça a duré vraiment pas longtemps. Mais c'était un souvenir qui sera toujours gravé, honnêtement, dans ma petite tête, hein, clairement.
Trop cool.
Belle rencontre.
Et il y a que des serpents de dangereux là-bas ou il y a plein d'autres choses?
Oh, il y a les fourmis. Oh, les fourmis.
C'est dangereux?
C'est pas dangereux, mais les fourmis, quand je faisais du bénévolat au Cambodge pendant un mois, je déblayais des terrains. Et en fait, il y avait des nids de fourmis, mais les fourmis, elles sont grandes,
elles sont
noires. Et en fait, quand elles te piquent, c'est la même douleur qu'une piqûre de guêpe, sauf que ça dure beaucoup moins longtemps. Mais quand elle te pique, tu le sens pas assez.
T'as été piqué?
J'ai été plein de fois.
Ah ouais? Ah
bah oui, parce que moi j'étais pieds nus, j'étais avec mes mains et j'arrachais les trucs. Et en fait, elles sont hyper, c'est pas comme les fourmis là qui viennent te manger tes pieds de main. Non, là, elles défendent leur territoire. Et du coup, elles sont là, elles attaquent. Il y en a 2-3 qui viennent t'attaquer, qui font ta ta ta. Vraiment, des fois, t'as vraiment mal. Mais j'ai rencontré par contre un petit serpent. Au début, je fais, oh,
un petit serpent.
Non, mais je te jure, il était vraiment tout petit sur une grande feuille. Il était vraiment mignon. Je prends une photo, je suis, oh, trop beau. Et tout. Et là, je me suis dit, attends, il est vraiment petit, ce serpent. Et là, je me dis, à mon avis, il est né il y a pas très longtemps. Comme à mon avis, la mer, là, pas très loin. Du coup, je me dis, bon, je vais arrêter là pour la journée de déblayage. je vais rentrer chez le Khmer chez qui j'habitais. Et je rentre et je lui dis, ouais, j'ai vu ce serpent. Et il demande, je lui montre la photo. Et en fait, le mec me traduit en français. Il me dit, en fait, il est vénéneux, celui-là.
Ah ouais.
Et là, je suis en mode, ah!
Il était petit parce qu'il était jeune ou?
Non, c'est parce qu'il était jeune.
Okay.
Honnêtement, c'est parce qu'il était jeune. Et je pense que j'ai eu le bon réflexe de pas trop m'approcher, de pas trop continuer à déblayer autour de lui parce qu'effectivement, la mer pouvait être pas loin parce que lui, il était un peu en train de se cacher et dormir, tu vois, un peu en mode de... Et vraiment, il était tout petit, quoi. Donc, il me dit, ouais, il est vénéneux. Et moi, j'étais là avec, tu sais, sans gants. Moi, je travaillais sans gants. J'étais, bon, j'ai fait OK, la prochaine fois, je ferai un peu plus gaffe. Ouais, je ferai un peu plus gaffe, quoi.
Et tu as dit tout à l'heure qu'on t'avait appris des petits mots khmer.
Ah ouais, mais.
Est-ce que tu peux nous en partager quelques-uns?
Avec un bel accent.
J'ai vraiment
pu. Au moins les banalités d'usage. Bonjour, au revoir, quoi.
Je m'en souviens même plus.
Ah, d'accord. Honnêtement.
Okay. Parce que quand tu parlais avec les locaux là-bas, tu parlais en anglais?
Ouais, je parlais khmer.
Ok.
Je parlais khmer. Parce que eux, du coup, comme je te disais, dans le village où j'étais resté 3 mois, il y a vraiment aucun touriste. Et du coup, ceux qui travaillaient pas dans l'auberge, ils parlaient pas du tout en anglais, quoi. Ouais. À part genre, hello, tu vois, ou thank you, ils étaient contents. Mais il a fallu vraiment que j'apprenne beaucoup de mots khmer que tu retiens quand c'est dans la vie tous les jours, mais que tu oublies très vite. Parce que c'est une langue, en tout cas, pour nous, notre façon de parler, qui est très compliquée, le khmer. Il y a tellement d'intonations que c'est super...
C'est pas les mêmes prononciations, c'est pas les mêmes lettres.
Mais franchement, j'avais beaucoup de mots, je me démerdais pas mal. Il y a plein de gens qui pensaient que je parlais bien, quoi. Que je pense que je pouvais faire des phrases, alors que je lâchais... tu sais, moi, je faisais un peu... moi, ça fait 7 mois, je suis ici, je lâche 2-3 mots, avec un bel accent. Ils sont en mode... Du coup, ils te lâchent des phrases en khmer, en mode, ouais, va comprendre. Et moi, j'étais en mode... pas de souci. Ouais. J'étais en mode... je comprends, pas du tout. Non, honnêtement...
Et c'est la même langue, Cambodge-Vietnam, ou pas
non,
du tout?
Non, le Cambodge, c'est du khmer. Au Vietnam, c'est du vietnamien.
Ok.
Mais non, c'est pas du tout la même langue. Après, si tu sais parler vietnamien, tu peux plus facilement apprendre le khmer. Parce que c'est pas la même ressemblance, mais c'est la façon de parler. Avec les intonations, au niveau de ta mâchoire, ta façon de sortir les sons, c'est un peu les mêmes. Okay. Nous, on n'a pas du tout la même... on a des lettres là-bas, ils peuvent pas prononcer, quoi. Ouais. Vraiment, on a des sons, ils peuvent pas le... comme nous avec eux, quoi.
Ouais, et inversement, ouais.
Alors, il est déjà 17h50, déjà, ça passe vite. Quand on s'amuse, exactement. Alors du coup, ça va être la fin de C'est bien l'aventure. Déjà, en tout cas, merci à tous les deux pour cette discussion géniale.
Merci à toi.
Et vous pouvez, très chères auditrices et auditeurs, réécouter cette rubrique en podcast sur le site radioalpa.com. Merci Thibaut, merci Manon.
Merci Léopold, de nous avoir invité.
De rien, avec plaisir. on va se quitter sur une citation de notre très cher Bouddha. Oui, tu ne peux pas voyager sur un chemin sans être toi-même le chemin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et tout de suite, une musique qui, moi, m'évoque toujours le voyage. J'ai nommé Send Me On My Way du groupe Rusty the Roots. Donc, c'est clairement la musique de l'âge de glace. Allez, merci à tous les deux.
Well, pick me up with golden hand. Oh, me say, oh, me tell you to run.
Oh, boy.
Nobody say, nobody on. Well, I would like to hold my little hand. How about we run? How about cry?
I would like to hold my little hand. How you been? reach out my hand. Oh, me say, oh, me tell you to run.
On my way, on my way. Nobody say, nobody on.
Salut les couzes, ne bougez pas, vous êtes sur Radio Alpa.
Enfin, je bouge si je veux.
Non mec, parce que c'est l'unique alternative.
Et il est bientôt 18h, je vous laisse avec le titre Slumlord de Baxter Dury, et vous retrouverez Léopold dans quelques minutes, juste après le Flash Info. A tout de suite sur Radio Alpa, merci.
Fresh honey, I'm the Milky Bar kid. Soiled trousers, shiny cheekbones like graveyards in the sun. Murder shoes, dirty eyes sizing up. Say, just don't say it. Sleepless angels have blessed us, and I'll shout you down in a slumlord way. Scary people saying silly shit.